France Inter.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, une nouvelle aide à l'Ukraine adoptée par la Chambre des représentants aux États-Unis. Kiev devrait recevoir 61 milliards de dollars, une aide sans laquelle son avenir sur le front face à l'armée russe aurait pu être compromis. Précision dans un instant, invité de ce journal, Bertrand Badi, professeur de relations internationales. Israël proteste auprès de plusieurs pays ayant voté en faveur de l'adhésion des Palestiniens aux Nations Unies. L'ambassadeur de France est convoqué. Dans ce journal également, dernier jour de la visite de Marine Le Pen à Mayotte, une affaire qui embarrasse la natation mondiale à 3 mois des JO de Paris, et en cyclisme, 110e édition de Liège-Bastogne-Liège. Notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin, avec l'ouverture d'un nouveau salon de rue pour l'association Coiffure du Cœur.
Ça intrigue, ils sont au milieu d'une place avec des cheveux par terre, on se demande ce qui se passe.
Je trouve ça fabuleux en fait, c'est génial, je vais diffuser l'information partout autour de moi, c'est une belle initiative.
L'esprit sport après ce journal, Nathalie Ganetta.
Aujourd'hui Frédéric, on va se demander comment est-ce qu'on fabrique une star dans le sport avec 3 spécialistes, écrivains et journalistes pour comprendre tout ça. À tout à l'heure,
la météo, une goutte froide se dirige sur le pays, Camille Esnault.
Oui, les températures sont aujourd'hui 4 à 5 degrés en dessous des normales et la baisse continue jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Une prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Une aide américaine qui change tout pour l'Ukraine. Hier soir aux États-Unis, la Chambre des représentants a donc voté une gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars. Un vaste plan d'aide destiné à Israël et Taïwan, mais surtout à l'Ukraine qui devrait donc recevoir pour sa part 61 milliards de dollars. Une aide qui sauvera des vies et des milliers de personnes, disait hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonjour Gwendal Lavina.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Surprise, Moscou s'insurge et Kiev salue une aide cruciale.
Oui, c'est enfin une bonne nouvelle pour Volodymyr Zelensky, lui qui ces dernières semaines ne faisait que voir l'armée russe progresser sur le front. Il expliquait même il y a 15 jours que sans cette enveloppe, l'Ukraine perdrait la guerre. Dans sa vidéo quotidienne publiée hier, juste après le vote, le président ukrainien, t-shirt marron, ne cache donc pas sa satisfaction.
Nous venons de recevoir une décision que nous attendions depuis très longtemps, l'enveloppe américaine pour laquelle nous nous battions si fort. Je voudrais remercier tous ceux qui ont soutenu cette aide, ainsi que tous les cœurs américains qui, comme nous, en Ukraine, pensent que le mal russe ne devrait pas l'emporter.
Volodymyr Zelensky ajoute que l'aide maintient l'histoire sur le bon chemin. Quand son premier ministre remercie les parlementaires américains, pour Joe Biden, il se montre à la hauteur de l'histoire et l'OTAN affirme que ces 61 milliards de dollars vont renforcer notre sécurité à tous. Tandis que le premier ministre polonais Donald Tusk, fervent soutien de l'Ukraine, espère que l'aide n'arrive pas trop tard. L'Allemagne et l'Union européenne parlent au contraire d'un jour d'optimisme, d'un message d'unité face au Kremlin. De son côté, Moscou dénonce une décision attendue et prévisible qui ne fera que tuer encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, ce soutien financier américain va aussi exacerber les crises mondiales.
Gwendal Lavina, merci. Invité de ce journal, Bertrand Badi, professeur de relations internationales. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Alors 61 milliards de dollars, est-ce que selon vous, cette aide américaine va tout changer pour l'Ukraine ?
Ça va substantiellement changer le cours des événements qui tournaient très mal pour Kiev depuis un certain nombre de semaines et de mois, et ces difficultés rencontrées par les armées ukrainiennes étaient clairement imputables à un défaut de munitions et un défaut d'armement qui devrait être compensé avec évidemment l'effet différé. Ce n'est pas un vote du Congrès qui demain matin va rééquiper directement l'armée ukrainienne. Et quand je dis vote du Congrès, ce n'est pour l'instant que la Chambre des représentants. Il faut encore attendre le vote du Sénat, même s'il ne devrait pas réserver de surprises. Mais c'est en même temps un soulagement sur le plan militaire et stratégique et un soulagement aussi sur le plan politique, parce qu'on s'interrogeait sérieusement sur la nature éventuellement nouvelle des liens entre Washington et Kiev. Là, on a le sentiment de retrouver, j'allais dire, le cours normal des choses telles qu'elles s'étaient déroulées depuis février 2022.
Alors, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu, explique que cette aide sauvera des milliers de vies. La Russie explique au contraire que cette aide tuera encore plus d'Ukrainiens. À quelle réaction on peut s'attendre de la part de la Russie ?
C'est-à-dire que la Russie s'était faite peu à peu à l'idée d'un relâchement des liens entre Washington et Kiev, et c'était comme conforté par ces manœuvres dilatoires de la Chambre des représentants. Donc c'est sinon un échec, du moins une déception pour Moscou, et probablement la nécessité pour la Russie de revoir ses plans. Moscou, le Kremlin, misait beaucoup sur l'affaiblissement de la défense ukrainienne, et pas seulement d'un simple point de vue stratégique, aussi d'un point de vue politique et du moral de la société ukrainienne. On voyait bien depuis quelques semaines qu'il y avait une perte de confiance. Cette perte de confiance est compensée et donc il faut s'attendre peut-être à une réaction de la part des Ukrainiens qui sera évidemment défavorable au plan de Moscou.
Concrètement, l'Ukraine va obtenir quel type d'armes, Bertrand Badi ? On parle de missiles anti-chars, de défense aérienne ?
Oui, et surtout de munitions. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Il y a la guerre en elle-même, la guerre sur le front, et là, le défaut de munitions devenait critique, et on l'a bien vu dans les récents événements et ces grignotages successifs qui commençait à poser un problème non pas seulement stratégique, mais vraiment politique. Et en plus de ça, et c'est peut-être là-dessus aussi que beaucoup va se jouer, on a vu ces derniers temps que par les bombardements russes, non seulement la population ukrainienne, mais les infrastructures essentielles à la survie de la société ukrainienne étaient mises en danger. Donc ce dont l'Ukraine a besoin, c'est d'une protection. Et c'est d'ailleurs ce qui a été rappelé lorsque les États-Unis s'étaient mobilisés pour protéger Israël, que de constater que la même chose ne se faisait pas en Ukraine. Donc la grande étape à franchir, c'est d'être doté de ces armes défensives et en même temps de protection de l'espace aérien ukrainien. C'est vraiment là que se joue l'immédiat.
Bertrand Badi, professeur des relations internationales, interview réalisée juste avant ce journal. Alors la Chambre américaine des représentants a également adopté une aide à Israël de plusieurs milliards de dollars, notamment pour renforcer le bouclier antimissile Dôme de fer. Et si au Moyen-Orient, après une semaine de tensions, Israël et l'Iran semblent s'éloigner d'une escalade, le gouvernement israélien souhaite en revanche protester auprès de plusieurs pays, dont la France. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Les ambassadeurs de France, du Japon, de Corée du Sud et de Malte notamment sont convoqués aujourd'hui au ministère israélien des Affaires étrangères.
Oui, autant d'États auxquels Israël compte adresser une vive protestation. Je cite dans un communiqué, la diplomatie israélienne s'insurge contre un vote de la France et de plusieurs autres pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Un vote il y a trois jours en faveur de l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies. Actuellement, les Palestiniens ont seulement le statut d'État observateur non membre de l'ONU. Ce geste politique envers les Palestiniens est une prime au terrorisme, accuse le ministère israélien des Affaires étrangères, 6 mois après les attaques du 7 octobre par le Hamas. De son côté, la France ne fait pas de commentaire sur cette convocation de son ambassadeur, mais selon une source diplomatique, au cours de cet entretien, l'émissaire français rappellera que Paris soutient de longue date une représentation de la Palestine dans les instances internationales, mais il précisera aussi que ce vote n'équivaut en aucun cas à une reconnaissance par la France d'un État palestinien.
Frédéric Saïs, merci. J'ajoute que le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier que l'autorité palestinienne allait réexaminer sa relation avec Washington après le veto américain à l'adhésion des Palestiniens aux Nations Unies.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Dernier jour du déplacement de Marine Le Pen sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, où elle est arrivée hier, peu après le lancement de l'opération Place Nette par le gouvernement, visant à interpeller des chefs de gang et à expulser des sans-papiers pour la plupart comariens. La députée RN est venue à Mayotte faire campagne pour Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux prochaines élections européennes. Et à l'écoute des problèmes des habitants, Marine Le Pen a presque toujours la même réponse. C'est la faute du gouvernement. Audrey Tison.
Salim est agriculteur. Il aimerait développer son exploitation de fruits et légumes, mais se heurte à un mur.
C'est un investissement de l'ordre de 3 millions, mais tout simplement, on me l'a rejeté. On m'a dit clairement que votre projet n'a pas sa place à Mayotte. C'est un projet très impossible pour les Maoris.
D'après lui, c'est l'administration française qui bloque son dossier de demande de subvention européenne.
Pour le coup, l'Union européenne, bon, à part exiger l'adaptation des normes qui sont délirantes à nos outre-mer, pour le reste, c'est de la faute de, pour tout ce que vous me racontez, c'est de la faute du gouvernement français.
Un discours bien rodé que Marine Le Pen répète ensuite devant les pêcheurs maorais, et notamment Youssouf, qui n'a pas les moyens de mettre ses bateaux aux normes.
On n'est pas contre les normes européennes, mais il faut qu'on puisse avoir aussi ces aides. On les entend depuis plus de 14 ans.
Nous, on va être votre porte-parole. Voilà, donc on va saisir les ministres. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les faire bouger. En ce sens que le désintérêt que l'État a à l'égard de Mayotte, ça grave. Il faut qu'on les remplace. Désolé de dire ça, mais à un moment donné, il faut qu'on les remplace pour que les politiques changent.
Marine Le Pen en campagne pour les européennes du mois de juin, mais aussi déjà pour la présidentielle de 2027.
À Paris, 3 policiers ont été blessés tôt ce matin lors d'un contrôle routier sur le périphérique. Une policière a été gravement atteinte dans cet accident de la route. Son pronostic vital n'est plus engagé. 2 autres agents ont été blessés. Un chauffeur a percuté la voiture de police ainsi qu'une autre voiture que les agents étaient en train de contrôler. Le chauffeur a pris la fuite à pied avant d'être interpellé. À Venise, la 60e Biennale d'art contemporain s'est ouverte hier. Gros plan aujourd'hui sur un pavillon particulier, celui du Vatican. Il est installé dans la prison pour femmes de Venise, un ancien couvent. Et 20 des 80 détenus ont été associés au projet qui présente des œuvres d'une dizaine d'artistes. Visite du pavillon du Vatican avec notre correspondant en Italie, Bruno Duvic.
Drôle d'ambiance pour une visite artistique. Contrôle d'identité,
documento.
Téléphone dans un casier.
Buonasera a tutti.
Marcella est détenue ici depuis un mois et demi, elle est colombienne. C'est elle qui nous guide vers un long corridor extérieur entre le bâtiment de la prison et le mur d'enceinte. Y sont accrochées des pierres de lave sur lesquelles l'artiste libanaise Simone Fatal a fixé des poèmes de prisonnières.
Des choses dites dans un moment de tristesse, mais aussi de joie.
Dans la cour de cet établissement, une installation en néon dessine une phrase que voient les femmes le soir derrière leurs fenêtres à barreaux. Nous sommes avec vous dans la nuit. On pénètre dans une grande salle couverte de peintures végétales, modèle préparé par l'une des artistes associées. Les filles ont fait les peintures, précise Marcella. C'est le parloir.
Ce lieu a un sens profond. La famille te redonne de l'espoir.
Le temps de passer devant les peintures de Claire Tabouret, d'après photos des proches des détenus.
Ici, tu vois, c'est la photo de mon fils.
La visite s'achève dans l'ancienne chapelle. De grandes lianes colorées, tressées par la brésilienne Sonia Gomez, invitent à regarder au ciel. C'est le moment des au revoir.
Ce projet nous a donné l'opportunité d'être vus aux yeux du monde comme des artistes.
On quitte la prison. Sur la façade, l'Italien Maurizio Cattelan a laissé une grande fresque, 2 pieds qui semblent abîmés par un long chemin de vie plein d'accidents.
Et le pape François visitera le pavillon du Vatican à la Biennale lors d'une visite à Venise dimanche prochain. Le sport ce samedi avec la 110e Liège-Bastogne-Liège, l'un des rendez-vous les plus importants de la saison en cyclisme. C'est même un monument pour les coureurs. On retrouve en direct Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et depuis ce matin et après 3 heures de course, la météo n'aide pas franchement les coureurs.
Eh non, il a neigé ce matin, rendez-vous compte, dans les Ardennes, blanchissant les bas-côtés de la route et les arbres. Alors rassurez-vous, la neige n'a pas tenu sur la chaussée. En revanche, le thermomètre tarde vraiment à remonter, pas plus des 6 degrés actuellement en course, ressenti 3 degrés. Et on voit les coureurs encore rouler avec des pécahouets, des jambières et des gants. Ils ont du mal à les retirer, il faut se protéger au maximum. En attendant, eh bien, on a 9 échappés valeureux tout de même depuis le début de la course, dont 4 Français, Lélian Calmejane, Rémi Rochas, Fabien Doubet et Paul Ourselin, 9 échappés qui comptent actuellement 3 minutes 25 secondes d'avance sur un peloton emmené par l'équipe UAE, l'équipe du grandissime favori de ce Liège-Bastogne-Liège, le Slovène Tadej Pogacar.
Fanny Lechevestrier, merci. À 3 mois des Jeux Olympiques de Paris, une affaire bien embarrassante risque de faire des dégâts dans les bassins de la natation mondiale. Selon une enquête sites de la télévision publique allemande ARD et le New York Times. Cette enquête révèle que 23 des meilleurs nageurs chinois ont été contrôlés positifs avant les Jeux de Tokyo sans finalement être inquiétés. Certains ont pu même participer aux Jeux et y décrocher des médailles. Les nageurs chinois ont prôné la contamination. L'Agence mondiale antidopage était au courant des cas et indique avoir examiné le dossier. La contamination alimentaire a été retenue avec la présence de trimétazidine, des modulateurs hormonaux, une version qui ne semble pas convaincre le président de la Fédération française de natation, Gilles Cézional.
Malheureusement, il y a deux poids deux mesures, quoi. On peut pas d'un côté comprendre qu'une patineuse russe a été suspendue 4 ans, et que là, il n'est rien fait, quoi. Donc, même si il y avait la Covid et que ça empêchait d'aller sur place, c'est vrai que c'est pas normalement la procédure. Après, ça entache effectivement. On a toujours une suspicion sur certaines performances récemment. Donc, c'est vrai que là, sur 23 athlètes, une contamination commune sur 23 athlètes, ça paraît un petit peu plus que bizarre, quoi. Surtout de la trimétazidine, je vois pas ce que ça a à faire. Étant pharmacien, je vois pas très bien ce que ça a à faire dans des repas, quoi. Bah, nous, on réclame que toute la lumière soit faite et qu'à un moment donné, que les procédures soient les mêmes pour tout le monde et soient appliquées.
Gilles Cézional, le président de la Fédération française de natation, avec Julien Froment. Notre rendez-vous du dimanche 13h avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Hier, nous avons rencontré une coiffeuse exceptionnelle de la Seine-sur-Mer dans le Var. Après 25 ans dans un salon, Hélène Boiron a tout quitté pour fonder et faire grandir son association Les Coiffures du Cœur. Elle a réussi à convaincre des coiffeurs dans 14 villes de France à venir le soir, après le travail, coiffer bénévolement les plus fragiles. Et cela marche. Dernier salon de rue inauguré cette semaine à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Le rendez-vous est donné devant la gare.
Ceux qui descendent du train ralentissent ou s'arrêtent carrément.
Ça intrigue. Ils sont au milieu d'une place avec des cheveux par terre. On se demande ce qui se passe.
Cette dame aussi n'en revient pas.
Je me suis arrêtée pour comprendre et puis je trouve ça fabuleux en fait. C'est génial. Je vais diffuser l'information partout autour de moi. C'est une belle initiative.
Ce n'est pas Marion qui dirait le contraire. Elle est envoyée par les Restos du Cœur et elle non plus n'avait jamais vu ça.
C'est la première fois.
Jamais vous aviez entendu parler de ça?
Non, jamais.
Marion, très sincèrement, depuis combien de temps vous n'avez pas franchi la porte d'un salon de coiffure?
Ça fait bien 2 ans.
Et là, vous voulez faire quoi?
Je sais pas. Peut-être couper un petit peu plus court, quelque chose comme ça.
Hélène, notre fondatrice de Coiffure du Cœur, va lui détacher la queue de cheval.
On va faire un super dégradé effilé, ça vous va?
Bah merci.
Marion enfile un peignoir jetable, s'assoit sur une chaise pliante, émue.
Quelqu'un qui s'occupe de moi comme ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Ça fait comme si c'était ma maman ou quelqu'un de ma famille.
Je l'ai senti quand elle vous a touché.
Ouais. Ça fait du bien qu'on prenne soin de nous, quoi.
Vous sentez quoi? Invisible?
C'est ça.
Même émotion sur la chaise d'à côté, Marie-Hélène se passe la main dans sa longue chevelure grise.
Je suis contente. Ma fille va être surprise demain quand elle va voir avec les cheveux coupés.
Vous voulez ressembler à quoi? Vous voulez quel coup?
Me faire belle.
Plus femme?
Ouais.
Et les hommes? Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Je m'appelle Sandrine.
Je m'appelle Gégé.
Vous faites la barbe?
Ouais. Ah, juste la barbe.
Comment trouvez-vous les coiffeurs du cœur?
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bien, ouais, ça n'existait pas.
De l'autre côté des tondeuses et des brosses, nos coiffeuses bénévoles. Pourquoi vous faites ça?
Parce que je trouve que c'est du luxe de se faire coiffer.
J'ai l'impression que ça vous fait du bien aussi à vous.
C'est exactement ça. Ça fait du bien de faire du bien aux autres, en fait.
Mais oui, c'est pas la même chose, un salon de coiffure. Le salon de coiffure, on attend quelqu'un. Ici, on a levé la main en disant, ouh, vous pouvez venir vous asseoir là, passer un moment de vie. Et c'est pas la même chose.
Donc ça veut dire que dans le miroir, comme les bénéficiaires, vous sentez différent?
C'est vrai. Merci.
En parlant de miroir...
Tiens, si tu veux te regarder...
On retrouve notre première cliente, Marion.
Franchement, j'aime bien. Ça change.
Bon bah nickel. Attends.
Marie-Hélène.
Impeccable. Ouais, ça va très très bien. Ouais. C'est génial. Ah ouais, ça fait du bien.
Thierry, cofondateur de Coiffure du Cœur, c'est le mari d'Hélène. Il est présent à toutes les inaugurations. Quand voyez tout ça là, ça vous fait du bien en quoi vous?
Ah ben moi ça me fait du bien parce que je vois que on sent que la solidarité elle est encore là, quoi. Voilà, ça réchauffe le cœur, hein, justement. C'est top, quoi. Voilà.
Les Coiffures du Cœur, dont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Camille Esnault.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Les averses se concentrent sur l'est du pays cet après-midi.
Oui, avec des orages possibles sur le nord-est et les Alpes-Maritimes. Elles vont se raréfier en soirée sur le nord, la région parisienne et la région centre. Pour une moitié sud et ouest, c'est toujours le soleil qui domine avec quand même quelques nuages qui viennent obscurcir le ciel de Bretagne et du Limousin. Mistral et Tramontane continuent de souffler et on reste cet après-midi à des valeurs 4 à 5 degrés en dessous des normales avec 6 à Épinal, 7 au Puy-en-Velay, 10 à Lille, 12 à Paris, 14 à Biarritz, 15 à Vannes et jusqu'à 21 du côté de Perpignan.
Et la journée de demain s'annonce comme la plus fraîche de cet épisode.
Oui, épisode de goutte froide qui s'abat sur le pays avec des températures comparables à un début mars. Les gelées se généralisent donc demain matin. On ne dépassera pas les 17 degrés en journée sur la façade atlantique, au sud-ouest et autour de la Méditerranée. On retrouvera aussi ces averses dans l'est et de la neige dès 500 mètres sur les reliefs et davantage d'éclaircies par contre dans l'ouest.
La météo de Camille Esnault. Merci.